Qu'est-ce qui t'a marqué, toi?
C'est plus petit que ça n'en a l'air. En fait, on s'attend à entrer dans un palais. Puis en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus modeste. Et toi?
Ben, la toute première fois que j'ai passé le pas de la porte principale, c'était pour une conférence de presse de Barack Obama. Ça m'a beaucoup impressionné de penser que tant de personnages historiques étaient passés par cette porte.
Et dans cet épisode, nous allons tous y entrer. On vous emmène à la Maison Blanche, adresse prestigieuse, 1600 Pennsylvania Avenue Northwest, 1600 l'avenue Pennsylvanie, à Washington bien sûr, avec Jordan Davis, l'Américain des services.
Éric Guébarafrey, journaliste spécialiste des États-Unis. Ah non, c'est pas le bon jingle là.
Washington DC, par A plus B.
Voilà, là c'est bon. En fait, pour un citoyen américain, ça fait partie un peu des grandes excursions qu'on peut faire dans sa vie. Aller à la Maison Blanche, en fait, il faut appeler son congressman, son représentant au Congrès. Il arrive à tirer les ficelles pour te mettre sur une liste. Et du coup, moi, je l'ai fait en famille quand j'étais enfant. Je devais avoir, je sais pas, 11 ans.
Et alors, t'as trouvé que c'était plus petit qu'en vrai?
Oui, on est nombreux à le dire, en fait, et ça c'est un peu un lieu commun chez les Américains de dire, on croyait que la Maison Blanche était beaucoup plus grande parce que à la télé, et puis avec l'importance qu'on attache à ce bâtiment, on a l'impression que ça doit être immense, que ça doit être comme Versailles, mais en fait, c'est beaucoup plus modeste, c'est une maison au final du 19e siècle. Et on est surpris quand on arrive dans la plus grande salle, le East Room, parce que cette salle, avec ses tons un peu jaunes, on la voit souvent à la télévision, sous différentes lumières. C'est sans doute la plus connue et la plus grande des salles de réception de la Maison Blanche. Par exemple, Nixon y a donné son discours d'adieu quand il a démissionné de la présidence en 1974.
We don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Et puis Barack Obama, il a fait son allocution télévisée pour annoncer la mort d'Oussama Ben Laden.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Puis on a signé beaucoup de traités, on a signé des projets de loi importants dans cette salle. Il y a souvent les grandes conférences de presse. Et même parfois, il y a des concerts.
This is why we support the humanities. I hope everybody's had a wonderful evening. Fire on the bike.
Et en fait, la East Room, la salle est de la Maison Blanche, en fait, est la plus grande salle de ce bâtiment central qu'on voit tout le temps représenté à la télévision. Il y a ensuite d'autres salles d'apparat plus petites. Et puis, il y a, dans les étages supérieurs, les appartements du président, mais pas le bureau ovale.
Non, lui, il est au bout de la West Wing, l'aile ouest, la partie du complexe dans laquelle travaillent le président et ses équipes les plus proches. C'est là aussi que le vice-président a un bureau. Le bâtiment a sans cesse évolué au fil de son histoire et l'aile ouest a été ajoutée au début du XXe siècle parce que Teddy Roosevelt se sentait un peu à l'étroit avec ses 6 enfants et son personnel dans le bâtiment principal. D'ailleurs, c'est Theodore Roosevelt qui a officialisé le nom de la Maison Blanche. Avant ça, on l'appelait le manoir exécutif, le palais du président ou encore la maison du président.
Et ça, je ne savais même pas avant de faire ce podcast. Bon, bah, dans la West Wing, il y a par exemple la Cabinet Room où se réunissent les ministres, disons, autour du président. Puis il y a la Lincoln Room où il y a des bureaux aussi pour le personnel. Et puis au sous-sol, les sous-sols sont exploités parce que la superficie est assez petite en fait. Au sous-sol, il y a une petite cafétéria, des bureaux pour le Secret Service, donc l'agence qui assure la sécurité du président. Et surtout, la fameuse Situation Room, c'est cette salle de crise qui a été installée dans sa première version par John F. Kennedy.
In the Situation Room, we watched it so clearly, as though you were watching a movie.
Et on voit ça très souvent dans les films, parce que c'est là que le président peut gérer des crises, il peut établir des communications audio-vidéo cryptées, il peut discuter en toute discrétion des secrets d'État, il peut suivre des interventions, comme par exemple la tentative d'arrestation et puis au final l'assassinat d'Oussama Bin Laden. Bah, il peut regarder ça depuis là, en direct, mais évidemment c'est hautement sécurisé, tous les appareils électroniques personnels sont interdits, et évidemment, nous, les journalistes, on peut pas entrer non plus avec.
Non, jamais dans la Situation Room et même rarement dans la West Wing, hein, sauf quand un petit groupe de journalistes est invité dans le bureau ovale lors de la visite d'un dirigeant étranger, par exemple, ou alors pour la signature d'une loi marquante. Sinon, la plupart du temps, les journalistes sont cantonnés à des bureaux exigus à côté de la salle de presse construite sur l'ancienne piscine.
L'ancienne piscine qui est toujours là, d'ailleurs.
Oui, enfin, elle est vide, mais c'est vrai qu'elle se trouve toujours sous le sol de la salle de presse. D'ailleurs, il y a une tradition, les correspondants à la Maison Blanche signent un carreau de la piscine pour laisser une trace.
On a parlé du président, du vice-président, mais la première dame, la First Lady, travaille de l'autre côté de la Maison Blanche, dans le East Wing, l'aile Est. Melania Trump, aujourd'hui, a une dizaine d'employés payés par le contribuable. Celles qui l'ont précédée dans cette fonction avaient en fait une garde rapprochée beaucoup plus grande, plutôt une vingtaine d'employés qui l'aidaient à mettre en œuvre ses projets.
Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us... visit your official home.
Et il faut dire que la première dame à laquelle beaucoup d'Américains pensent quand on pense à la Maison Blanche, c'est bien Jackie Kennedy.
The diplomatic reception room is right here. The room that people see first when they come to the White House. Everyone.
On entend sa voix, son accent inoubliable. Et la raison pour laquelle on l'associe tellement à la Maison Blanche, c'est parce que elle a présenté à la télévision en 1962. Elle venait de faire des rénovations, mais plutôt une restauration des aspects historiques de beaucoup de salles dans la Maison Blanche. Beaucoup d'Américains, évidemment, n'avaient pas les moyens d'aller à Washington pour visiter la Maison Blanche. Et donc, la Maison Blanche est venue dans leur séjour sur leur téléviseur.
Isn't that the famous Gilbert Stuart portrait of George Washington?
That's right. That's the oldest thing in the White House. The only thing that was here since the very beginning.
Ça a fait un tabac à la télévision. 80 millions de téléspectateurs. Ce documentaire a été vu dans une cinquantaine de pays à travers le monde. C'était un vrai phénomène de société et vraiment, c'était un modèle en quelque sorte pour les premières dames modernes qui essaient toutes de mettre leur petite touche personnelle à la Maison Blanche. Bon, Eric, on va prendre l'air.
Ah oui, volontiers. Surtout que les jardins de la Maison Blanche sont plutôt agréables. En fait, c'est officiellement un parc national entretenu par le service des parcs nationaux. Alors, c'est pas immense, mais largement de quoi se dégourdir les jambes pour le président, sa famille, ses chiens quand il y en a. Et puis on est en pleine ville, hein, une ville certes très verte.
Bon, le parc n'est pas très grand, mais suffisamment pour qu'on y ait installé une piscine, un terrain de tennis et basket, et puis le jardin des enfants, où il y a un petit étang, le potager de Michelle Obama, puis une piste de course à pied qui a été voulue par Bill Clinton, et puis surtout le fameux Rose Garden, la roseraie juste devant la West Wing, l'aile ouest, dans lequel se tiennent souvent des cérémonies officielles ou des conférences de presse quand il fait beau.
Sans oublier l'aire d'atterrissage pour l'hélicoptère du président sur la prairie sud, le président qui n'a que quelques dizaines de mètres à parcourir sur l'herbe entre le bureau ovale et son hélico.
Tu savais, Eric, que la Maison Blanche avait été incendiée ?
À un coup des Anglais !
Exactement, la guerre de 1812 entre les États-Unis et leur ancienne puissance coloniale. Les Anglais ont envahi Washington, ils ont mis le feu au Capitole, ils ont mis le feu à d'autres bâtiments publics et surtout à la Maison Blanche. Les dégâts étaient si importants qu'on avait même imaginé renoncer à Washington comme capitale et de déménager le siège de l'État fédéral ailleurs. Mais finalement, tout a été reconstruit et en 1817, le président James Monroe a pu s'installer de nouveau dans la nouvelle Maison Blanche. Enfin, l'incendie volontaire à la Maison Blanche, c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui.
Oui, c'est sans doute l'un des bâtiments les mieux protégés des États-Unis. Il est sous la zone d'exclusion aérienne qui recouvre la capitale fédérale américaine depuis les attentats du 11 septembre. On a pu apercevoir au moins une batterie antimissile sur le toit d'un immeuble adjacent. Il n'est pas rare de voir des tireurs d'élite avec des jumelles, sans compter tous les agents au sol et tous les équipements dont on n'a absolument aucune idée. En tout cas, lorsqu'il y a une alerte sérieuse, quand un avion perce la bulle aérienne par exemple, ou si on soupçonne une intrusion au sol, la Maison Blanche est placée en confinement et le président, s'il est là, est descendu au bunker. Si vraiment ça tourne mal, un tunnel permet de rejoindre les fondations fortifiées du département du Trésor, juste à côté. Puis oui, encore une fois, il y a sans doute un tas de choses qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas idée.
Oui, pourtant, on pouvait presque entrer dans la Maison Blanche à une époque que comme dans un moulin.
Oui, à ses débuts, elle était ouverte au public. Et puis au fil des incidents et des événements nationaux ou internationaux, eh bien, la sécurité a été progressivement renforcée.
Oui, on a restreint l'accès aux extérieurs quand les gens ont commencé à vouloir photographier le président et sa famille. Puis on a fermé les rues adjacentes ou érigé de nouvelles clôtures après l'attaque de Pearl Harbor ou l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Puis il y avait évidemment le 11 septembre. Moi, je me souviens, j'étais au mariage de ma tante qui était sur un hôtel en face. On était sur le toit et c'était début des années 90 et il fallait donner tous les noms des invités au Secret Service. Donc, c'est vrai, déjà, ça commençait à monter en puissance le périmètre de sécurité. Et aujourd'hui, on ne pénètre pas dans, même dans le périmètre, même des jardins de la Maison Blanche, que si on travaille ou que si on a été invité.
Et après un contrôle des antécédents et un contrôle tout court réalisé par le Secret Service.
Oui, encore récemment, on a dû modifier les clôtures pour empêcher les gens de les escalader parce qu'en fait, ça arrive. New security breach on the White House grounds. Quand je regarde l'historique, il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont réussi tout de même à sauter par-dessus les barrières. Security breach at the White House as a man jumps the fence and makes. Évidemment, souvent sans suite parce que ces personnes étaient généralement mises en joue très rapidement par des agents bien armés. Et qui ont aussi des chiens avec eux.
Et puis les fenêtres, on peut en parler, évidemment, sont à l'épreuve des balles. Ça a servi ne serait-ce qu'en 2014, une vitre à arrêter la balle de pistolet tirée par un déséquilibré.
Et c'est peut-être le moment de dire, Eric, que tous les présidents des États-Unis ont pu utiliser la Maison Blanche, sauf un.
Et le premier, George Washington, c'est lui qui a lancé le projet, c'est lui qui a choisi l'emplacement, mais le temps de la construction, il avait quitté le pouvoir et c'est son successeur John Adams qui a eu l'honneur d'inaugurer l'édifice. George Washington, lui, s'était installé à New York après son investiture.
Et à propos d'installation, comment ça va se passer le changement de locataire quand il y a le changement de président ?
Bah, c'est un immense défi logistique qui se déroule forcément un 20 janvier, jour de l'investiture. Entre le départ du président sortant avant la cérémonie et l'arrivée du nouveau président après la cérémonie, une centaine d'employés a environ 5 heures pour tout vider, nettoyer, changer les moquettes, changer les câbles qui en ont besoin, faire des retouches au mur, et puis installer les affaires du nouveau président et de sa famille.
Ouais, tout doit être prêt et propre, y compris le bowling et la petite salle de cinéma cachée dans la Maison Blanche. Ça va être difficile de quitter cette maison tout de même.
Oui, ça c'est sûr.
Washington DC par A plus B. Réalisé par
Mathieu Balmer.
I'm Jordan Davis and I approve this podcast.
Je suis Eric Guevara-Frey et j'approuve ce balado.